La dynamique mentale par Christian Godefroy. La psychocybernétique. Il y a dans le domaine du développement personnel un grand classique. Édité dans les années 60, il connaît depuis un succès sans relâche. Bien avant l'heure, il décrit l'alpha, la sophrologie et leurs applications psychologiques. Traduit, édité et connu dans le monde entier, il est pratiquement ignoré dans notre pays. Le titre du livre, Psychocybernétique. Son auteur, Maxwell Maltz, chirurgien esthétique. Tout commença par un échec. Maxwell Maltz, brillant chirurgien esthétique américain pratiquant en Angleterre, en France, en Allemagne, en Italie et en Amérique latine, se pencha sur la psychologie après avoir remarqué l'incidence extraordinaire d'une opération de chirurgie de la face sur la personnalité de ses patients. Il avait l'impression, en taillant la chair, d'entamer aussi la psyché. Dans son premier livre, New Faces, New Futures, il expliqua comment, en modifiant l'image extérieure d'une personne, on la change intérieurement. Sa personnalité, son comportement et ses capacités se trouvent transformés d'une façon extraordinaire, sans rapport avec l'intervention. Le manque de confiance en soi, les complexes, disparaissent dans les 3 semaines pour laisser place à une nouvelle personnalité épanouie. Pourtant, dans certains cas, il n'y avait aucun changement après l'intervention. La disparition du défaut, de la malformation ou de la cicatrice qui désespérait le patient ne changeait rien. Le patient continuait à vivre comme auparavant. En d'autres termes, il continuait à se sentir, à vivre et à agir comme si rien n'était changé. Cet échec troublait Maltz qui chercha à comprendre. Il en vint à penser qu'il y avait quelque chose habituellement influencé par l'opération de chirurgie esthétique et que lorsque ce quelque chose était modifié, la personnalité se transformait elle-même parallèlement. Inversement, lorsque ce quelque chose n'était pas remodelé, la personne continuait à être ce qu'elle était auparavant, même si son apparence avait radicalement changé. Un peu comme si la personnalité avait elle-même un visage. Pour être un bon chirurgien esthétique, Maxwell Maltz se devait d'opérer ce visage immatériel, tout comme le visage physique. Après bien des tâtonnements, il devint convaincu que tout homme porte en lui un concept ou une image mentale, spirituelle de son moi. En agissant sur cette image de soi, il devenait possible de transformer la personnalité de ses patients. Se tournant vers les psychologues, il les interrogea sur cette image de soi. Comment se formait-elle? Par quels processus nerveux et cérébraux exerçait-elle son influence? Pourquoi? Comment? Les réponses furent vagues, ampoulées et décevantes. C'est curieusement une nouvelle science aux frontières de la physique et des mathématiques, la cybernétique, qui lui apporta la réponse. La cybernétique. Peu avant la Seconde Guerre mondiale, un groupe de savants avait l'habitude d'organiser régulièrement des débats interdisciplinaires. C'est le rapprochement de 2 participants, A. Rosenbluth, spécialiste de physiologie nerveuse, et Norbert Wiener, mathématicien concepteur de systèmes électroniques, qui donna naissance à la cybernétique. Ils s'aperçurent que le système de communication d'un animal et le système nerveux humain étaient comparables à ceux d'une machine électronique. En essayant de créer des cerveaux-mécanismes, de faire une synthèse de l'acte gouverné, les spécialistes avaient redécouvert des lois qui s'appliquaient à l'acte réflexe de l'homme. Des études approfondies montrèrent qu'un comportement humain ou un système automatique correspondait au même schéma. Je cite « Il faut se garder, bien sûr, de faire du computomorphisme, c'est-à-dire d'assimiler cerveau humain et ordinateur. Il est actuellement impossible de reproduire toutes les fonctions biologiques, même celles qui sont connues. Cette réserve faite, le grand avantage de la cybernétique est de donner de la pensée une représentation claire. » Fin de citation, G. et B. Veraldi, Psychologie de la création. La cybernétique explique le comment et le pourquoi du comportement d'une machine ou d'un homme. C'est le moyen de réconcilier toutes les théories psychologiques dans un seul système. Maltz prédit une révolution dans la psychologie grâce à la cybernétique, expliquant qu'il ne faut pas s'étonner que la réponse aux questions que se posent les experts de la psyché humaine vienne d'ailleurs, des physiciens et des mathématiciens. Le spécialiste croit tout savoir et il éprouve souvent de grandes difficultés à sortir des limites du conformisme pour innover. Le mot « cybernétique » a été inventé par les Grecs et se retrouve dans plusieurs dialogues de Platon. C'est l'art de diriger, de gouverner. De « kuberman », gouverner. Or, diriger, tenir le gouvernail d'un bateau ou d'un gouvernement, nécessite le choix d'un objectif, d'un but. Dans la psycho-cybernétique, loin de dire que l'homme est une machine, un ordinateur évolué, Maxwell Maltz nous montre que l'homme utilise une machine, son cerveau et son système nerveux. Le choix de l'objectif est notre privilège et notre grandeur. Encore faut-il savoir comment programmer notre cerveau, une fois notre choix fait, afin d'obtenir ce que nous désirons. Cette programmation bien faite, nos fonctions cérébrales et nerveuses travailleront comme un véritable mécanisme de réussite à notre avantage. Dans le cas contraire, nous déclencherons un mécanisme d'échec qui jouera contre nous. Or, le premier but que nous poursuivons inlassablement est d'agir conformément à cette image que nous nous faisons de nous-mêmes, l'image de soi. Expérience et image de soi. Comme nous l'avons vu précédemment, la suggestion, le conditionnement peuvent altérer, modifier ou améliorer cette image. Maltz, lui, met l'accent sur l'expérience. C'est notre passé, notre expérience qui crée et modifie cette image de soi. Nos succès, nos échecs passés conditionnent notre avenir. Ils sont la référence de nos modèles de comportement. Souvenez-vous, par exemple, de votre première conduite automobile. Chaque camion paraissait une montagne, chaque geste demandait un effort parce que vous ne pouviez faire appel qu'à une réserve très limitée de souvenirs. Peu à peu, avec l'expérience, les gestes devinrent de plus en plus corrects et efficaces. Aujourd'hui, vous pouvez freiner, débrayer, mettre votre flèche et calculer votre trajectoire sans même y penser. C'est le réflexe. Votre comportement est pris en charge par le cerveau-mécanisme que constituent cerveau et système nerveux. La connaissance intellectuelle ne suffit pas, il faut aussi avoir l'expérience. Y auriez-vous confié votre vie à un étudiant en médecine qui connaîtrait parfaitement la théorie d'une opération mais n'aurait jamais tenu un scalpel en main? L'expérience est la clé. Il est d'usage de dire « le succès appelle le succès ». Inversement, qui ne connaît quelqu'un dans son entourage à qui la vie semble jouer constamment de mauvais tours, qui va de catastrophe en catastrophe? Lorsque l'image de soi est adéquate, forgée par des expériences réussies, notre comportement est conforme à nos désirs. Lorsqu'elle nous représente comme indigne, inférieur, sans mérite ou incapable, notre comportement s'aligne sur cette image. Les frustrations, les accidents, les chocs émotifs nous limite dans l'utilisation pleine et entière de toutes nos facultés. Comment modifier cette image de soi? Si l'expérience est le meilleur outil de modification, pourquoi ne pas l'utiliser? Son seul inconvénient est sa dureté. L'école de la vie peut être un enseignement dangereux. Mettez quelqu'un à l'eau, faites-lui boire la tasse, cela lui apprendra peut-être à surnager, à moins qu'il ne se noie. Le service militaire permettrait de devenir un homme à de nombreux adolescents. Il en transformait d'autres en délinquants. L'idéal serait donc de créer une expérience progressive en laboratoire pour développer les comportements nouveaux, de substituer des modèles de comportement positifs à ceux qui existaient antérieurement grâce à une expérience positive plus forte que ce qui avait été vécu précédemment. Tous les systèmes d'enseignement de développement personnel tendent vers cela. Le laboratoire de langue est une expérience progressive. Le psychodrame ou le scrim, une expérience positive plus forte qui vient remplacer un modèle négatif. L'esprit ne fait pas de différence entre l'expérience et ce qui est très intensément imaginé. Mais une découverte de psychologie clinique et expérimentale va nous venir en aide pour trouver une meilleure réponse. L'esprit ne fait pas de différence entre l'expérience vécue et ce qui est seulement très intensément imaginé. Voilà une assertion qui semble bien téméraire. Plus exactement, notre image de soi est affectée aussi bien par ce que nous vivons que par ce que nous imaginons ou croyons. sur le plan physiologique, souvenez-vous de l'effet placebo. Ce que l'esprit croit, l'ingestion d'un médicament, et non ce qui est, rien, déclenche les processus de guérison. Vous voyez votre conjoint cacher une lettre, qu'il vient de recevoir, refuser de vous la montrer. C'est ce que vous croirez qu'il vous trompe, ce qui vous affectera, et non l'expérience réelle, une lettre d'un parent. L'effet Pygmalion, bien connu en psychologie, met en relief l'importance de ses croyances dans l'éducation. On fait passer des tests de QI à une classe, le psychologue attire l'attention des professeurs et des parents sur un élève, moyen jusque-là, disant qu'il s'agit d'une intelligence supérieure. En fait, c'est faux, son QI est moyen. Quelques mois plus tard, cet élève a de meilleures notes et passe en tête de classe. Que s'est-il passé? Les réflexions encourageantes de ses professeurs, de son entourage, lui ont insufflé une nouvelle confiance en lui, une nouvelle image de soi, à laquelle son comportement et ses résultats se sont conformés. L'importance d'un échec ne provient pas de l'expérience elle-même, mais de l'effet qu'elle a sur nous. Maltz fut frappé par l'effet que peut avoir une même cicatrice sur deux individus différents. Un vendeur d'automobile avait été défiguré par une grande balafre dans un accident de voiture. En se regardant dans la glace, il se dit qu'il devait être un objet de répulsion pour autrui. Il était différent des autres. Cela commença à devenir une obsession. Il perdit confiance en lui et devint agressif. Maltz avait vu un Allemand portant exactement la même cicatrice. Étudiant, se battant au sabre, il avait eu le visage entaillé et portait fièrement, depuis, cette preuve de bravoure, de virilité, source de sa confiance en lui. L'important n'était donc pas la cicatrice, mais l'effet de la cicatrice sur eux. Ce que l'on s'imagine que les gens penseront de nous, ce que l'on croit être. Sous hypnose, tout individu dispose d'une force herculéenne sur commande. Un timide peut se mettre à faire un discours brillant, un bègue, parler normalement et certains paralysés recouvrer l'usage de leurs membres. De piètres dessinateurs deviennent des artistes extraordinaires dès qu'on leur suggère être Renoir ou Modigliani. Inversement, sur ordre de l'hypnotiseur, le sujet ne pourra plus écrire son nom, sera incapable de desserrer ses deux mains jointes ou ne saura plus marcher normalement. Suggérez-lui qu'il est recherché par la police et il se transformera immédiatement sous vos yeux en homme traqué. La persuasion de notre entourage, nos propres pensées et leurs effets sur notre imagination ont le même pouvoir que l'hypnotiseur. Ils peuvent nous aider à utiliser pleinement notre potentiel ou créer des limites imaginaires qui nous entravent inexorablement. Quelles que soient les données, justes ou erronées, que nous fournissons à notre cerveau de mécanisme personnel, il réagira en fonction de ces données et notamment du but poursuivi. Le but principal est notre image de soi, qu'elle soit un concept intellectuel fait de mots ou une image mentale. Ces mots, ces croyances ou cette image mentale, nous les créons grâce à notre imagination. L'homme ne peut découvrir dans le réel que ce qu'il a au préalable imaginé inventé, écrit Jean Forastier, lorsqu'il étudie lui aussi les mécanismes cérébraux à la lumière de la cybernétique. Ces facultés de programmation, nous les utilisons sans nous en rendre compte, souvent à notre détriment. Lorsque nous sommes préoccupés, lorsque nous avons peur de quelque chose, lorsque nous ressassons une scène d'échec ou une pensée négative, nous utilisons notre imagination pour élaborer des programmes qui influenceront notre comportement futur. Si vous pouvez vous souvenir, être soucieux ou lacer vos chaussures d'une façon nouvelle, vous pouvez réussir, dit Maltz. Je cite à nouveau, « Visualiser, créer une image mentale n'est pas plus difficile que ce que vous faites lorsque vous vous souvenez d'une scène passée ou être préoccupé par le futur. Agir selon de nouveaux modèles de comportement n'est pas plus difficile que prendre la décision de lacer ses chaussures d'une façon nouvelle, puis de le faire, au lieu d'agir par automatisme, guidé par l'habitude. » Fin de citation. L'angoisse et le sentiment d'infériorité. Les milliers de personnes qu'il m'a été donné de voir agir en séminaire de développement personnel souffraient toutes de manque de confiance en elles-mêmes. Ce manque de foi en eux, cette image de soi mutilée, minait leur existence sans qu'ils s'en rendent compte. Ils souffraient tous, peu ou prou, de complexes d'infériorité. Quant à ceux qui débordaient d'assurance, ce n'était souvent qu'une façade, une compensation qui trompait peut-être les autres, mais ne délivrait pas leur auteur d'une angoisse cyclique. En lisant ces lignes, vous vous dites sans doute « cela ne me concerne pas ». Et pourtant, réfléchissez. Il y a certainement un domaine dans lequel vous ne brillez pas, ou une qualité qui vous manque. La société moderne vous offre un modèle de réussite auquel vous n'êtes peut-être pas parvenu. Avez-vous la voiture de sport, le home cinéma, la maison, les nouvelles technologies qui sont nécessaires? Votre voisin les a, lui. Pourquoi pas vous? Résister aux suggestions environnantes et ne pas se comparer à est bien difficile. Or, si l'on se sent partiellement inférieur, on agit conformément à ce sentiment. En fait, nous sommes tous inférieurs à. Nous conduisons moins bien que tel coureur automobile, nous dansons moins bien que tel champion, nous sommes moins intelligents que tel génie. Nous sommes tous inférieurs, dans un domaine ou dans un autre. Nous sommes inférieurs aux spécialistes. Pourtant, cela ne nous crée pas toujours des complexes d'infériorité. Sans doute parce que nous savons que dans d'autres domaines, nous sommes supérieurs à. Avoir un complexe, ce n'est pas seulement savoir, mais surtout sentir. Parce que je suis un piètre danseur, je vais me sentir inférieur. Brusquement fasciné par cette infériorité, je vais peut-être oublier toutes mes autres qualités, tous mes succès, pour me concentrer uniquement sur cette idée négative. Je suis inférieur puisque je ne sais pas danser. En fait, je devrais penser, parce que je n'ai jamais appris à danser la valse, je suis ce soir maladroit en dansant. Nous nous laissons prendre au piège des mots, en nous comparant à ce qui n'est pas comparable, puisque chaque individu est unique. Il est impossible d'atteindre le bonheur en se comparant à autrui. Vous n'êtes pas inférieur, parce que vous ne connaissez pas aussi bien que moi la dynamique mentale, par exemple. Tout est une question de normes. Au lieu de comparer nos actions à ce que nous avons fait par le passé, nous nous jugeons dans notre dialogue intérieur en fonction d'une autre personne et de ses critères. Et parce que nous croyons que nous sommes inférieurs, nous nous sentons inférieurs et pensons que nous ne sommes pas normaux, qu'il y a en nous quelque chose qui ne va pas. La tension, le stress dans lequel nous vivons trouvent leur source dans ce cercle vicieux. Nous nous critiquons continuellement, croyant progresser en nous disant nos quatre vérités, souvent aidés en cela par notre entourage avare de compliments et prodigue de réflexions négatives. Nous finissons par répondre à la question « Qui suis-je ?» par « Je suis moins que » par rapport à « Je suis incapable de » « Je n'arriverai jamais à » « La vérité sur vous, la voici ». Vous n'êtes pas inférieur, vous n'êtes pas supérieur, vous êtes simplement vous. Votre personnalité n'est comparable à aucune autre, tout simplement parce qu'il n'y a personne au monde qui soit exactement comme vous. Vous êtes un individu, vous êtes unique. Vous n'êtes pas comme quelqu'un d'autre et ne pourrez jamais devenir comme qui que ce soit d'autre. Vous n'êtes pas supposé être comme qui que ce soit. Et personne n'est supposé être comme vous. Comment se libérer de ces complexes? Comment être soi? En se représentant tel que l'on est potentiellement, tel que l'on peut devenir, débarrassé de ces inhibitions qui nous entravent. Il ne s'agit pas bien sûr de créer un moi outré, gonflé, qui n'ait plus aucun rapport avec notre potentiel. Il faut simplement se voir tel que l'on peut devenir, et laisser cette image imprégner notre esprit pendant 21 jours. Le temps généralement nécessaire pour s'habituer. S'habituer à porter un plâtre, s'habituer à une nouvelle maison, à une voiture, etc. Si l'on ne doit pas penser aux erreurs et aux échecs pour ne pas altérer son image de soi, que faut-il faire lorsqu'ils surviennent néanmoins? La cybernétique nous apporte la réponse. Un cerveau-mécanisme atteint son objectif en essayant et en échouant. Les échecs sont examinés, analysés et permettent la correction. Lorsqu'elles restent en mémoire, ces expériences passées négatives n'inhibent pas le comportement du cerveau-mécanisme, mais contribuent tout au contraire au processus d'apprentissage. Les erreurs sont prises comme des étapes sur la voie du succès. Une fois analysées, nos erreurs doivent nous aider, puis être oubliées. Elles ne doivent pas subsister sous la forme de « j'ai échoué par le passé, donc j'échouerai toujours ». Le psychologue F.M.H. Myers donne une explication au discours convaincant et enthousiaste que peuvent faire en état hypnotique certains timides, incapables de parler en public, en disant que les patients sont purgés des échecs passés sous hypnose. Mais cela est aussi possible à l'état conscient. Le docteur Alfred Adler, ami de Maltz, lorsqu'il était jeune, eut un mauvais départ en arithmétique. Et son professeur eut bientôt la certitude qu'il n'était pas doué pour les mathématiques. Il en informa les parents qui s'en convainquirent d'autant plus facilement que, dans la famille, nous sommes plutôt littéraires. Adler se fit à l'idée et ses notes confirmaient ses prévisions. Un jour, le professeur posa un problème au tableau, promettant une bonne note au premier qui trouverait la solution. Un bras se leva au fond, Adler, et toute la classe pouffa de rire. « Allez donc nous montrer votre solution, Adler !» Ce qu'il fit brillamment, aux grandes dames de la classe et du professeur. Dans un éclair d'inspiration, il avait vu la solution. Cette anecdote marqua Adler, lui montrant qu'il s'était laissé convaincre par son entourage de sa nullité en maths. Il devint, par la suite, doué pour les mathématiques. Lorsqu'on utilise l'imagination pour modifier son image de soi, il faut l'accompagner de sentiments et d'émotions. L'événement marquant vécu par Adler l'a été parce qu'il représentait un choc émotif. Le docteur Wilder Penfield, neurochirurgien à l'université McGill à Montréal, a montré que la stimulation électrique de certaines cellules cérébrales peut faire revivre aux opérés leur passé. Ils revivent ces scènes comme si elles se déroulaient vraiment. Je cite « Le sujet sent encore l'émotion que la situation originelle a produite en lui et il est conscient des mêmes interprétations, vraies ou fausses, qu'il a données lui-même à l'expérience la première fois. Ainsi, le souvenir évoqué n'est pas la reproduction photographique ou phonographique exacte des scènes ou des événements passés. C'est une reproduction de ce que le patient a vu, entendu et compris. » Fin de citation. C'est de cette façon que l'on doit représenter notre image de soi. En imaginant les détails, les couleurs, les odeurs, les sensations et les émotions, avec une telle acuité que cette nouvelle image, progressivement, vienne se substituer à l'ancienne. En analysant la façon dont fonctionnent nos soucis, nos préoccupations, nous avons une bonne idée de la manière dont il faut procéder pour changer d'objectif. Lorsqu'on est soucieux, on commence par penser à quelque chose de désagréable qui risque de survenir dans quelques temps. Cela peut être un événement, une lettre, une entrevue, etc. Puis nous pensons à cette éventualité, nous l'imaginons dans tous ses détails. À force de manier cette idée, cette possibilité, elle finit par prendre corps dans notre esprit et les sentiments qui en découlent, découragement, tension, angoisse, apparaissent. Maltz fait remarquer qu'il n'y a pas là, à proprement parler, d'effort ni de volonté, un simple jeu de l'imagination. La volonté par l'imagination. Nous rejoignons ici le concept de sophro-acceptation progressive de Cassedo. Se voir positivement, heureux, manier cette possibilité comme un espoir, pour déclencher les réactions positives de l'organisme. Les malades qui se voient guéris, qui veulent s'en sortir, guérissent plus vite. Mais ce n'est pas parce qu'ils veulent qu'ils se voient le faire. C'est parce qu'ils se voient le faire qu'ils trouvent l'espoir et la volonté. La volonté, une faculté qui échappe à certains, que d'autres vénèrent. Pendant des années, j'ai cru que la volonté était cet effort, ce dépassement de soi dans un mouvement conscient, difficile. Le cliché de la volonté, d'enserré, muscle tendu, me fascinait tout en semblant inaccessible. Puis, à la lecture de biographies d'hommes célèbres, en rencontrant ceux que l'on disait avoir une volonté d'acier, je me suis aperçu qu'ils tiraient cette énergie, cette force, non de la volonté, mais de l'origine de celle-ci, de l'objectif qu'ils poursuivaient. Le meilleur vendeur que je connaisse est considéré par tous comme possédant une volonté extraordinaire. Directeur du marketing pour l'Europe, dans une société multinationale, il décida à 30 ans de se lancer dans la vente. Piètre négociateur, il végéta pendant 6 mois, puis fit des progrès réguliers. Il devint le meilleur vendeur d'une organisation de vente de produits financiers de 500 personnes. Il en est aujourd'hui à 35 ans le directeur commercial. Il réussit tout ce qu'il entreprend. D'où tire-t-il cette force ? Il fait partie d'un mouvement occultiste qui enseigne un secret préservé depuis des siècles. L'art des images mentales. Il sait se motiver en visualisant précisément ce qu'il désire. Il puise, dans cet exercice, l'énergie qui l'anime. Napoléon pratiqua l'art de la guerre en imagination pendant des années. De là vint son succès. Peu à peu, il commença à craindre l'échec et il programma inconsciemment sa chute. Une étude attentive de la dernière partie de sa vie montre que son cerveau mécanisme était branché sur l'échec. Les cerveaux mécanismes, s'ils s'éloignent de leur objectif, rectifient leur trajectoire en fonction de l'erreur et poursuivent leur but. Lorsque nous programmons l'échec en nous, des incidents de parcours peuvent survenir. Nous pouvons commencer à réussir, rencontrer un succès par erreur. Si notre objectif inconscient est l'échec, nous serons inexorablement ramenés vers lui. De là l'idée de ce fatum grec, du destin qui nous pousse là où nous ne voudrions pas aller. Comment résoudre un problème ? Maxwell Maltz considère notre vie comme une suite de résolutions de problèmes, depuis celui qui semble le plus facile, comment rattraper cette balle de tennis, jusqu'à ceux nouveaux pour lesquels notre expérience ne nous sert pas beaucoup. Là encore, la comparaison avec l'ordinateur va être utile. Dans le premier cas, un ordre simple sera donné. Rattraper la balle et la renvoyer. La suite des opérations sera prise en charge par notre subconscient, le cerveau mécanisme. Dans le second cas, tout comme le programmeur qui écrit son programme, il va nous falloir analyser consciemment les données du problème, accumuler les informations et fournir tous ces éléments à la machine. Les résultats viendront d'eux-mêmes. La créativité est curieusement similaire. Il faut penser à un problème, en faire le tour, se relaxer, et la solution apparaît. Tous les artistes, inventeurs, créateurs parlent de l'inspiration, des muses, des idées qui sont dans l'air. Les musiciens nous diront que l'air leur est venu comme ça. Les calculateurs prodiges disent directement les résultats sur un tableau ou dans une scène imaginaire. Mais nos contemporains, le cartésien français en particulier, veulent tout résoudre par la pensée rationnelle. Le mythe de la raison, de la logique, qui peut tout, nous entraîne à douter de ses facultés intuitives et automatiques de créativité. Nous sommes anxieux, nous attendons les résultats dans la crainte et dans l'inhibition. L'enseignement traditionnel, demande et il te sera accordé, ne craignez rien, est oublié et paraît inacceptable à l'homme moderne. Dans un état de tension continuelle, il bloque les rouages de sa créativité et décharge continuellement son énergie, même en dormant, comme une batterie toujours sous tension. Créer, c'est se ressouvenir. Lorsqu'un mot vous échappe, lorsqu'il est sur le bout de votre langue, il vous suffit de vaquer à vos occupations habituelles pour qu'il revienne peu de temps après comme issu d'une recherche automatique. La solution d'un problème apparaît souvent de la même façon. Schubert dit un jour à un ami que pour lui, composer était juste se souvenir d'une mélodie et la transcrire. Pour faire cela, il faut être persuadé que ce que l'on cherche existe déjà. C'est ici que la psychocybernétique rejoint le paranormal. la créativité, phénomène parapsychologique ? Notre cerveau mécanisme travaille à partir des données que sont notre expérience, notre connaissance, notre mémoire. Mais pourquoi ne travaillerait-il pas aussi à partir d'autres informations paranormales ? Arthur Koestler, dans « Les racines du hasard », cite le professeur Broad. Si la connaissance paranormale et la causalité paranormale sont des faits, il est probable qu'elles ne se bornent pas aux très rares occasions dans lesquelles elles se manifestent sporadiquement de façon spectaculaire, ni aux conditions très spéciales dans lesquelles on peut en établir expérimentalement la présence. Il se peut fort bien qu'elles opèrent continuellement à l'arrière-plan de nos vies normales. Notre compréhension d'autrui, comme nos mésententes, notre humeur en certaines occasions, les idées qui nous viennent soudain sans cause évidente à l'introspection, nos réactions émotives immédiates et inexplicables à l'égard de certaines personnes, tout cela pourrait être déterminé partiellement par une cognition paranormale et des influences causales paranormales. Fin de citation. Si, comme nous le verrons par la suite, il vous est possible de puiser des informations dans n'importe quel cerveau au monde, dans un esprit universel, un inconscient collectif, une conscience collective. S'il vous est de plus possible d'influencer mentalement votre entourage, la résolution d'un problème à l'aide de ces moyens devient un jeu d'enfant. La chance n'est plus un phénomène aléatoire et capricieux. Elle dépend bien plus de votre façon de programmer vos objectifs. Votre mécanisme de réussite sélectionne une idée ici, un fait là, une série d'expériences passées, les associe ou les organise en une structure élaborée qui viendra apporter ce qui manque à votre situation, compléter votre équation ou résoudre votre problème. Lorsque cette solution apparaît au niveau de votre conscience, souvent à un moment d'inattention lorsque vous pensez à autre chose, ou peut-être sous forme de rêve, lorsque votre conscience est au repos, quelque chose se déclenche, et vous réalisez immédiatement qu'il s'agit de la réponse que vous cherchiez. Tout comme un radar reconnaît l'avion qu'il doit suivre. Il y a beaucoup plus à dire sur la psychocybernétique que ces quelques pages ne peuvent le faire. Il faut surtout l'appliquer, l'essayer. La vie devient une suite de coïncidences étonnantes qui vous mettent en rapport avec ce dont vous avez besoin, en contact avec les personnes qui peuvent vous aider dans la poursuite de votre objectif. Il m'est arrivé plus d'une fois d'être perplexe lorsque j'analysais la suite d'événements fortuits, la chance, qui m'amenait là où je voulais aller, à cette image mentale que j'avais conçue des mois auparavant. Il y a dans ces exercices un côté magique. Comment ne pas s'émerveiller devant les prouesses de notre esprit, surtout lorsque l'on ne voit que le résultat, comme le spectateur d'un tour de prestidigitation. Les manipulations, le long apprentissage n'apparaissent pas. Tout semble facile. D'où cette impression de magie. L'image mentale fait d'ailleurs partie de la magie. Elle est, avec la symbolique, un des outils maniés par les mages de tout temps.